Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 24 juin 2021. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, Éthiopie, le bilan de la frappe aérienne sur un marché au Tigré est revu à la hausse. Les autorités annoncent 104 morts. Le gouvernement dit que seuls des combattants ont péri. Au Mali, un prêtre est toujours retenu par ses ravisseurs et ne faisait pas partie des personnes libérées dans le centre du pays. Covid-19, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Selon elle, une troisième vague risque d'être la pire pour l'Afrique. Ici aux États-Unis, l'ancien policier blanc tueur de George Floyd sera édifié demain sur sa peine de prison. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. En Éthiopie, l'administration régionale du Tigré affirme qu'au moins 64 personnes ont été tuées et 180 blessées dans un bombardement mardi sur le marché hebdomadaire de Togoga. L'armée a reconnu avoir mené une frappe aérienne sur le village, mais a su n'avoir visé que des combattants du TPLF. Nathalie Barge.
Selon un responsable de l'administration régionale de transition mise en place par le gouvernement éthiopien, au moins 64 personnes ont été tuées et 180 blessées. L'armée est également accusée d'avoir empêché les secours d'accéder à Togoga. Des ambulances ont pu emmener une trentaine de blessés, dont des enfants, à l'hôpital de Mekele. Selon le porte-parole de l'armée, l'opération n'a pas visé le marché hebdomadaire, mais des forces réunies à Togoga pour commémorer le bombardement sur Ozen le 22 juin 1988 durant la guerre civile. Le colonel Getnet Adane affirme que les anciens combattants du TPLF dansaient armés pour célébrer leur soi-disant jour des martyrs. Dénonçant l'attaque, le porte-parole du commandement central du Tigré, Getachew Reda, a affirmé que les forces pro-TPLF avaient abattu un avion transportant des explosifs. Le bombardement sur Togoga est intervenu au lendemain d'élections nationales en Éthiopie. Elles ont été reportées au Tigré, qui connaît un regain d'activité militaire, notamment autour des villes stratégiques d'Adigrat et Oukro. L'ONU a appelé à une enquête et l'Union européenne et les États-Unis ont condamné cette frappe.
Un abbé malien enlevé lundi dans le centre du pays est toujours retenu, contrairement à des informations initiales qui le donnaient pour libéré. Il avait été enlevé avec quatre autres catholiques. Les détails avec Rosine Monezero.
Les quatre compagnons catholiques laïcs de l'abbé Léon Douillon sont arrivés hier mercredi à Ségué, mais sans le prêtre et son véhicule, a dit un responsable de la communication de l'église malienne, l'abbé Fernand Koulibaly. Un responsable de l'église de Mopti, dont il relève, ainsi que le gouverneur, ont dit hier que les cinq catholiques kidnappés deux jours plus tôt par des hommes armés ont été relâchés. Quatre personnes ont été libérées et sont arrivées à Ségué, mais le curé n'a pas été libéré, a confirmé l'abbé Kizito Togo de la paroisse de Mopti. Le groupe parti de la localité de Ségué, située sur le plateau d'Ogon, avait pris la route pour aller assister à l'enterrement d'un autre abbé. Les enlèvements sont courants au Mali. Un journaliste français a été enlevé début avril dans le nord du Mali et une religieuse franciscaine colombienne enlevée en 2017 est considérée comme toujours retenue en otage par des djihadistes.
L'ONU annonce aujourd'hui dans un rapport que le conflit entre l'armée nigériane et les groupes djihadistes du nord-est du Nigeria, qui dure depuis 12 ans, a causé la mort directe ou indirecte de près de 350 000 personnes, dont 324 000 enfants. L'insécurité est une menace perpétuelle sur la sécurité alimentaire, mais aussi les conditions économiques et sanitaires désastreuses des camps de déplacés, manquant d'infrastructures de base comme l'eau courante ou les soins, pourrait engendrer plus d'1,1 million de morts supplémentaires dans les 10 prochaines années. Coronavirus en Afrique, l'OMS tire la sonnette d'alarme. La troisième vague des cas de COVID-19 se propage plus rapidement en Afrique et frappe plus fort sur un continent. Confronté à une pénurie de vaccins, a alerté ce jeudi le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé. Claire Morin-Gibou.
En Afrique, la troisième vague prend de la vitesse, se propage plus vite, frappe plus fort, a déclaré le docteur Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Depuis début mai, l'Afrique a enregistré 474 000 nouveaux cas et les formes graves de la maladie sont de plus en plus nombreux. Le docteur Moeti met en garde, cette dernière vague menace d'être la pire à ce jour en Afrique. Selon les données de l'OMS, la pandémie refait surface dans 12 pays africains en raison du non-respect des gestes barrières et de la propagation de variants beaucoup plus contagieux. En République démocratique du Congo, environ 77% des cas diagnostiqués sont liés au variant Delta, un chiffre qui atteint 97% en Ouganda. Cette recrudescence en Afrique survient alors que la pénurie de vaccins persiste sur le continent, où seul un peu plus de 1% de la population a été complètement vaccinée, d'après l'OMS. Toutefois, la méfiance vis-à-vis des vaccins anti-Covid reste forte dans de nombreux pays africains.
Au Gabon, les auteurs présumés d'une tentative de coup d'État en janvier 2019 ont affirmé aujourd'hui à leur procès qu'ils voulaient ainsi empêcher un putsch d'un frère du président Ali Bongo Ondimba, alors en convalescence après un AVC. Mais le président de la Cour spéciale militaire de Libreville, qui juge les 9 co-accusés, a rejeté les requêtes de leurs avocats pour faire comparaître le colonel Frédéric Bongo, aujourd'hui attaché militaire de l'ambassade du Gabon en Afrique du Sud. Le premier ministre algérien Abdelaziz Gérard a présenté aujourd'hui sa démission, près de 2 semaines après les élections législatives du 12 juin, une démission qui ouvre la voie à la nomination d'un nouveau gouvernement par le président Abdelmadjid Tebboune.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le policier Derek Chauvin sera fixé demain vendredi sur sa peine. C'est 2 mois après son incarcération pour avoir été reconnu coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd à l'issue d'un procès. Les précisions avec Eric Manirakiza.
Le juge Peter Cahill prononcera la sentence à 18h30 en temps universel dans un tribunal de Minneapolis. Il a retenu 4 circonstances aggravantes ouvrant la voie à une peine plus lourde. Le policier a abusé de sa position de confiance et d'autorité, a traité George Floyd avec une grande cruauté, a agi en présence de mineurs, a commis son crime en réunion, a écrit le magistrat avant l'audience. Le barème des peines dans le Minnesota prévoit un minimum de 12 ans et demi de prison pour l'ancien policier blanc âgé de 45 ans qui a été incarcéré dès l'annonce du verdict. Le 25 mai 2020, Derek Chauvin place son genou sur le cou de Floyd. Il maintient sa pression pendant près de 10 minutes, indifférent au râle de George Floyd, mais aussi aux supplications de passants. La mort de Floyd avait déclenché des séries de manifestations aux États-Unis et dans le monde. Quelle que soit la décision, elle fera l'objet de recours. Maître Eric Nelson, l'avocat de Chauvin, a déjà fait part de son intention de demander l'annulation du verdict en raison de doutes sur l'impartialité de certains jurés. Les 3 collègues de Derek Chauvin seront jugés en mars 2022 pour complicité de meurtre par la justice du Minnesota.
Le président américain Joe Biden a annoncé aujourd'hui un accord avec un groupe de sénateurs républicains et démocrates sur un plan d'investissement massif dans les infrastructures. Après des mois de négociations entre la Maison-Blanche et le Congrès, nous avons un accord, a lancé M. Biden à l'issue de cette réunion, très attendue avec 5 démocrates et 5 républicains. S'il représente une avancée majeure, cet accord ne marque cependant pas la fin des discussions. 2 chefs des majorités démocrates au Congrès ont signalé ce jeudi que ce plan devrait impérativement aller de pair avec le développement d'un autre vaste projet de loi qui comprendrait d'autres priorités de l'administration Biden, comme des aides aux personnes âgées ou pour la garde d'enfants. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé aujourd'hui la création d'une commission spéciale sur l'assaut meurtrier du Capitole menée le 6 janvier par des partisans de Donald Trump après le blocage par les républicains d'une commission d'enquête indépendante. Depuis janvier, la police fédérale a déployé des moyens considérables pour identifier les quelques 800 personnes impliquées dans l'assaut du Capitole qui avait choqué l'Amérique. Jusqu'ici, 500 ont été retrouvés inculpés pour des chefs plus ou moins lourds. Les États-Unis envisagent d'évacuer avant le retrait complet de leurs troupes d'Afghanistan des Afghans qui ont travaillé avec les forces américaines comme interprètes et qui redoutent des représailles, a indiqué aujourd'hui un haut responsable américain. L'objectif de cette évacuation est que les personnes concernées soient en sécurité pendant la période d'examen de leur demande de visa. Ni leur nombre, ni leur destination n'ont été précisés. L'angoisse gagne les habitants de Kunduz, dans le nord-est de l'Afghanistan, qui se prépare à faire face à un long siège des talibans. Les combats entre les forces gouvernementales et les insurgés se poursuivent en lisière de la ville. La plupart des commerces sont restés fermés ce jeudi. Des dizaines de véhicules militaires patrouillaient les rues de Kunduz où le gouvernement a envoyé des renforts. La Grande-Bretagne a prévenu aujourd'hui qu'elle ne tolérerait pas d'atteinte aux droits maritimes après que la Russie a averti qu'elle va répondre à toute nouvelle provocation de la marine britannique. Hier, après un incident au large de la Crimée, l'ambassadrice britannique Deborah Brunert a été convoquée au ministère russe des Affaires étrangères. Voilà, ce sera tout pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Claire Morin-Gibourg.
Dans le cadre des transitions vertes mises en place pour lutter contre le réchauffement climatique, la demande mondiale de cuivre devrait être multipliée par 13 pour atteindre 4 millions de tonnes par an en 2040, selon le CRU Group, société de veille économique. L'un des principaux bénéficiaires africains sera la RDC pour Ecofin, car le pays dispose de plusieurs projets en phase de développement. Le groupe nigérian Dangote continue ses investissements au Cameroun. Après la construction d'une cimenterie à Douala et le projet d'une autre à Yaoundé, Ali Dangote, l'homme le plus riche du continent, veut se lancer dans la production d'hydrocarbures. Reçu hier par le président Biya, Ali Dangote a déclaré que le groupe allait se diversifier, notamment dans le pétrole et le gaz. L'homme d'affaires s'est félicité de l'amélioration du climat des affaires et des mesures incitatives à l'investissement privé dans le pays. Un accord initial sur des indemnisations a été conclu entre l'Égypte et le propriétaire du porte-conteneur qui avait bloqué fin mars le canal de Suez. D'une capacité de plus de 200 000 tonnes, l'Ever Given s'était échoué le 23 mars, bloquant la circulation sur le canal, voie maritime cruciale où passe près de 10% du commerce maritime mondial.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Constant Omari, président démissionnaire de la Fédération congolaise de football, est interdit d'exercer toute activité liée au football pendant 12 mois au niveau national et international. Ainsi en a décidé la commission d'éthique de la FIFA. L'ex-président intérimaire de la CAF devra en outre payer une amende de 66 000 euros. La commission justifie cette sanction par les avantages reçus de la part de Lagardère Sport, pour un total de 64 444 euros dans le cadre des négociations qu'il menait avec cette entité en lien avec la commercialisation de certains droits de retransmission télévisée attribués à la société LC2 et le recouvrement des impayés. Constant Omari a démissionné de la présidence de la FECOFA à 6 mois de la fin de son mandat. Des nouvelles de l'Euro, pas de match aujourd'hui. Les rencontres de la dernière journée de la phase de poule se sont disputées hier et on connaît désormais les affiches des huitièmes de finale. Samedi, on aura Pays de Galles, Danemark à Amsterdam, Italie, Autriche à Londres. Dimanche, les Pays-Bas font face à la République tchèque à Budapest et la Belgique joue le Portugal à Séville. Lundi, la Croatie défie l'Espagne à Copenhague et la France fait face à la Suisse à Bucarest. Enfin, mardi, on a le choc à Londres entre l'Angleterre et l'Allemagne et à Glasgow, Suédois et Ukrainiens s'affrontent. L'UEFA supprime à partir de cet été, dans toutes ses compétitions de clubs, l'avantage lié au but à l'extérieur, annonce l'instance dirigeante du football européen. Introduite en 1965, cette règle servait à départager deux équipes à égalité après leur match aller-retour. Elle sera remplacée par deux périodes de prolongation de 15 minutes, puis par d'éventuels tirs au but à partir des phases de qualification des compétitions européennes. L'avantage du but à l'extérieur n'apparaissait plus justifié, explique l'UEFA. L'instance dit constater une réduction progressive de l'écart entre victoire à domicile ou à l'extérieur, ainsi que l'écart entre but marqué à domicile ou à l'extérieur à chaque match. Ici, en NBA, les Atlanta Hawks s'imposent d'entrée sur le terrain des Milwaukee Bucks lors du premier match de la finale de la conférence Est. Bagassi Koura.
Oui, au bout d'un match indécis, les Hawks décrochent une victoire sur le fil 116 à 113 grâce notamment à un énorme Trae Young, 48 points, Mené de 4 points à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Atlanta a passé un 7-0 décisif, ponctué par deux lancers du meneur Trae Young. C'est la troisième fois en autant de tours des playoffs cette année que l'équipe de l'entraîneur Nate McMillan remporte la première rencontre chez l'adversaire, annulant ainsi l'avantage du terrain. Atlanta mène donc la série 1-0 avant le match numéro 2 prévu demain.
Merci, Bagassi.
Page de sport signée Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, l'abbé Léon Douillon, enlevé lundi dans le centre du pays, est toujours entre les mains de ses ravisseurs. Des informations initiales le donnaient pour libérer, en même temps que quatre autres catholiques. Pour en savoir davantage, VOA Afrique a joint l'abbé Kizito Togo, curé de l'église de Mopti, dont il relève. Il est interrogé par Kadiatou Traoré.
Alors d'abord, je précise qu'ils étaient partis de Ségué et ça se trouve dans le cercle de Bankas. Et ils partaient donc pour 100 et ils ont été interceptés avant d'arriver à Bandiagara. Alors hier soir, quatre d'entre eux sont revenus à Ségué et c'est ce que je peux certifier parce que j'ai entendu des gens de Ségué et qui m'ont certifié que les quatre sont revenus. Par contre, l'abbé Léon Douillon, lui, il n'est pas revenu avec eux. Donc je suppose qu'il a été retenu par les ravisseurs. Maintenant, est-ce que se portent bien, je n'ai pas vu leur état, je suis à Mopti ici. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'arrivés, ils sont allés directement à l'église pour remercier le Seigneur pour cette libération. Donc, ils étaient dans l'état quand même de faire ça, ce qui veut dire que l'état n'est pas si dramatique.
Aucune information sur l'autre qui n'a pas été libéré?
Aucune information, puisque comme je vous dis, moi je suis à Mopti et précisément à Sévaré, et je n'ai aucune idée, même les autres qui ont été libérés, ce n'est pas que je les ai vus, mais j'ai quand même entendu des gens qui les ont vus, et comme je connais ces gens, je connais leur voix, je certifie qu'effectivement, ils ont été libéré, mais celui qui n'a pas été libéré, on n'a aucune idée, on ne sait même pas de quel côté ils l'ont amené, et donc là, je ne peux rien dire.
Quelles sont les conditions dans lesquelles ils ont été libérés? Est-ce qu'il y a eu
alors
des
là, encore, des négociations, je ne crois pas, puisque nous, de toute façon, c'est le lundi, le lundi 21, nous avons constaté qu'ils devaient arriver à Mopti au plus tard à midi, ils ne sont pas arrivés, jusqu'au soir, on n'a pas de nouvelles et on n'arrive pas à les appeler, donc on a compris qu'ils ont été enlevés ou braqués. Et alors, nous avons, le même jour là, le soir, rédigé donc une note pour signifier aux autorités compétentes donc du gouvernorat là-bas que 5 de nos fidèles ont été disparus. Maintenant, on s'est confié à eux pour le travail, pour les retrouver. Bon, quant à nous, nous sommes des religieux, donc nous ne pouvons que faire des prières, espérant qu'ils seront libérés. Mais il n'y a pas eu de négociation. En tout cas, du côté de l'Église, non, il n'y a pas eu de négociation.
Pensez-vous que cette arrestation ou même cet enlèvement-là pourront avoir des conséquences dans le futur sur les activités des gens de votre communauté, je veux dire les chrétiens?
D'abord, moi-même, je pense qu'ils ont sans doute été braqués parce que ces gens, ils cherchaient des personnes. Mais je ne crois pas qu'ils étaient informés que c'était vraiment des membres de l'Église. Ils ont pris un véhicule et dans ce véhicule, il y avait des chrétiens. D'ailleurs, ce même jour, lundi, il y a eu un braquage d'un véhicule du préfet de Lingari entre Bandiagara et Sévaré, précisément au niveau de la zone de Tilé. Et même, j'ai eu un de mes parents aussi, leur véhicule a été attaqué ce même jour. Et le jour, lundi, c'est le jour de la foire de Bandiagara. Donc, il se peut que ce soit des gens qui cherchaient à braquer. Et autre chose. La preuve, c'est qu'ils ont libéré donc, nos fidèles chrétiens. Ils n'ont pas non plus pris ce qu'ils avaient sur eux. Donc, je ne suis pas sûr que l'action était dirigée directement contre les chrétiens. Mais par contre, bien sûr, désormais, nous serons un peu plus prudents et peut-être aussi, ne pas voyager avec un type de véhicule qui peut peut-être susciter l'envie de ceux qui veulent le braquer. Ça, c'est aussi une possibilité.
L'abbé Kizito Togo, curé de Mopti au Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, l'ancien premier ministre et ex-chef rebelle Guillaume Soro a été condamné en son absence mercredi à Abidjan à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Ses partisans dénoncent un jugement politique destiné à l'écarter définitivement du jeu politique ivoirien. C'est l'avis du professeur Franklin Yamsi, conseiller en communication de M. Soro.
Il s'agit tout simplement d'une parodie de justice. Déjà, cette condamnation est contraire aux dispositions du droit international, car, vous le savez sans doute, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, une cour souchée à l'Union africaine et qui est supérieure en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques à l'ensemble des juridictions nationales ivoiriennes, avait déjà, courant 2020, demandé à l'État de Côte d'Ivoire, au régime Ouattara, d'arrêter toutes les poursuites entreprises contre le président Guillaume Kiboffori-Soro et ses compagnons. Il s'ensuit que toutes les condamnations et tous les procès auxquels on a assisté à Abidjan sont juridiquement nuls et de nul effet. Et comme l'a dit le président Guillaume Kiboffori-Soro, nous rejetons totalement l'abjection de ces verdicts frappés de ce que vous appelez aux États-Unis le lawfare, la manipulation de la justice par les pouvoirs dictatoriaux.
Alors cette condamnation survient au lendemain ou quelques jours après le retour du président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on peut établir un lien entre les deux événements?
Absolument. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est dans une logique, notamment depuis 2016, et sa décision en réalité de violer la constitution ivoirienne et de s'accaparer l'État de Côte d'Ivoire, lui et son clan. Cette logique, c'est l'élimination de tous les rivaux politiques de taille, à l'empêcher d'installer une monarchie bananière à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a prévu de mettre hors d'état de participer à la course politique le président dédié du PDC-RDA. Il avait prévu que le président Laurent Gbagbo finisse sa vie en exil à la prison de Scheveningen, à la Cour pénale internationale. Et Alassane Dramane Ouattara, avant même que le verdict d'hier ait été énoncé contre notre président et leader Guillaume Kiboffori-Soro, avait déjà le 24 octobre 2020 carrément annoncé que pour lui, Guillaume Kiboffori-Soro méritait ni plus ni moins que la prison à vie, la prison à perpétuité. Donc tous les grands leaders, tous les hommes d'État ivoiriens sont dans le collimateur d'Alassane Dramane Ouattara et il ne va pas hésiter, si l'opposition ivoirienne est divisée, si le peuple ivoirien n'est pas mobilisé, à les éliminer les uns après les autres.
Alors le président Guillaume Soro est toujours en exil. Son avenir politique semble se compliquer. Qu'est-ce qu'il compte faire? Et pensez-vous qu'il a encore une chance de jouer un rôle politique en Côte d'Ivoire?
Aujourd'hui, Alassane Ouattara, par le jugement inique et absurde prononcé contre Guillaume Kiboffori-Soro et une partie de ses compagnons, a désigné Guillaume Kiboffori-Soro comme étant le leader authentique de l'opposition radicale à la dictature qu'il instaure. Par définition, Guillaume Kiboffori-Soro est donc en réserve de la République de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro représente la possibilité de gouverner autrement la Côte d'Ivoire et nous allons poursuivre à ses côtés le combat juste de la révolution pacifique citoyenne pour que M. Ouattara recule et que la Côte d'Ivoire vive.
Professeur Franklin Niamsi, conseiller en communication de Guillaume Soro.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Tchad, plus d'une centaine de lauréats professionnels de l'éducation nationale en instance d'intégration à la fonction publique ont décidé de quitter le pays ce jeudi, réunis à la Bourse du Travail pour des modalités de départ vers des pays d'accueil tenus secrets. Ils ont été accueillis par les gaz lacrymogènes à quelques mètres de la sortie de la Bourse de Travail. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
La Bourse du Travail de N'Djamena constitue le point de départ de ces lauréats désespérés qui décident de quitter collectivement le pays à la recherche d'une vie meilleure alors que le gouvernement leur a demandé de sursoir à leur départ pour 24 heures lors d'une négociation entamée par la société civile et quelques avocats au barreau du Tchad. Sac de voyage et copie de diplôme en main, ils se sont mis en route vers l'aéroport et la police les a arrosés de gaz lacrymogène. Repliés à l'intérieur de la Bourse du Travail, les leaders du collectif des lauréats professionnels de l'éducation nationale en instance d'intégration à la fonction publique tentent désespérément de calmer leurs camarades.
Pour l'instant, nous allons demander l'indulgence.
Vous ne voulez pas quand même des enfants avec des otages là.
S'il vous plaît,
on écoute. Nous sommes en démocratie. Moi, personnellement, ce que le gouvernement a demandé ne me préoccupe pas. Mais ce qui me retient un peu, nos leaders, surtout les gens de la société civile, tout de suite, ils nous ont demandé 24 heures.
Ils étaient où au départ quand même?
Ils sont au départ de la scène actuellement. Et je crois que les choses bougent.
C'est une manière de nous endormir et donc pas question de perdre encore une minute sur le sol tchadien, ont déclaré au micro de VOA Afrique quelques lauréats.
On est fatigué déjà d'attendre l'intégration là. Moi personnellement, ça fait déjà 10 ans de chômage. Donc mieux de quitter le pays puisque le gouvernement tchadien là
Ils sont des menteurs.
Nous luttons pour un droit. En tout cas, nous sommes décidés.
Nous sommes prêts pour quitter le pays, malgré les menaces de la police. Nous avons dit adieu même au Tchad déjà. Bon, 24 heures, c'est pas loin. Donc nous, on va rester ici au niveau de Brousse du Travail, les attendre. On ne rentre pas chez nous. Nous avons amené nos bagages et tout pour le départ. Donc on va étaler ici dormir.
Le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, Mahamad Nouri Bidou, s'est rendu à la Bourse du Travail pour tenter de convaincre ces jeunes à surseoir à leur projet.
Franchement, voir des élites du pays, des cadres diplômés quitter le pays simplement parce qu'ils ne sont pas sûrs d'obtenir un emploi, c'est inadmissible. C'est vraiment un geste qui nous a vraiment émus. Je crois qu'eux aussi, ils ont droit à une intégration. Ils ont le droit de s'épanouir dans leur propre pays. Le degré de malaise dans ce pays est illustré par justement leur mouvement. Ça traduit un ras-le-bol. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont dans le même cas que eux. Donc le conseil que nous leur avons prodigué, partir n'est pas une solution. Et là, il faudrait qu'ils restent dans le pays et qu'ils luttent pour que triomphe la justice. Parce que c'est leur droit, parce que c'est leur pays, à eux aussi.
Rien n'a filtré pour le moment de la rencontre entre les leaders de ces lauréats, ceux de la société civile qui ont proposé leurs bons offices et les autorités en charge de la fonction publique. Entre-temps, la seule solution pour ces lauréats, c'est de quitter collectivement le pays à la recherche d'un avenir meilleur. André Kodumatingar N'Djamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, 31%, soit un tiers des stocks de vaccins reçus par le pays en avril dernier, court le risque de péremption à cause du faible engouement des populations à se faire vacciner. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun occupe le 7e rang parmi 19 pays d'Afrique subsaharienne concernés par cette situation. Le gouvernement a décidé d'intensifier la vaccination dans les prochains jours pour espérer inverser la tendance. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jelentap.
L'ambition du gouvernement est de vacciner au moins 20% de sa population totale avant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu dans notre pays dès janvier 2022.
Cet objectif que rappelle le ministre de la Santé publique Malachi Malaouda est jusqu'ici loin d'être atteint. Selon les chiffres officiels, le taux global de vaccination du pays est de 15,07% depuis son lancement en avril dernier. Et pourtant, le Cameroun a reçu 591 000 doses de vaccins Sinopharm et AstraZeneca. Mais seules 89 100 doses de vaccins ont pu être injectées à la date du 16 juin 2011 d'après le programme élargi de vaccination Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique.
Nous devons trouver le moyen de véritablement épuiser ces doses dans le temps. Parce qu'il y a certains qui sont en train de courir après ce vaccin. Nous avons déjà reçu une demande d'un pays sud-américain pour nous dire si vous n'arrivez pas à consommer, nous on en veut. Dans les estimations de l'OMS, on pourrait être dans les 180 000 de non-consommés dans ce stock.
Parmi les personnes qui ont boudé la vaccination, il y a le personnel de santé. Son taux de couverture vaccinale est de 22%. Pourtant, ce personnel a été désigné prioritaire pour recevoir les premières doses de vaccin. Par ailleurs, sur les 70 300 personnes ayant reçu la première dose de vaccin contre le Covid, seules 16 200 personnes ont pris la seconde. De quoi inquiéter Dr Fanuel Abimana, représentant résident de l'OMS au Cameroun.
Nous avons des pays qui cherchent des vaccins désespérément. Je peux donner l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Rwanda. Et de l'autre côté, vous avez des pays où le vaccin risque d'expirer. L'exemple le plus spectaculaire, c'est un pays de l'Afrique centrale qui avait reçu 1,7 million de doses et la facilité COVAX a dû en retirer 1 300 000. Au niveau de la région africaine, l'urgence réelle, c'est d'obtenir 20 millions de doses dans les 6 semaines pour permettre aux pays que j'ai mentionnés tout à l'heure de pouvoir offrir la deuxième dose du vaccin.
Le gouvernement annonce une nouvelle campagne de vaccination plus intense du 7 au 11 juillet prochain. Elle est ouverte aux personnes âgées de plus de 18 ans. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.
Nous allons associer ceux qui influencent le grand public. Ce sont les leaders d'opinion, les responsables des partis politiques, ce sont les responsables religieux.
Plus de 5,5 millions de doses de vaccins ont été précommandées pour ce second tour de vaccination. Mais une grande partie du stock, constitué de vaccins Johnson & Johnson, soit 5 millions de doses, ne sera mise à la disposition du Cameroun qu'après épuisement du stock actuel qui reste à consommer. Yaoundé, Emmanuel Chimta, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.